des polars et des notes.
Bonjour à tous, amis de la littérature noire, bienvenue sur Radio Évasion, dans Des polars et des notes plus précisément, qui, tout comme vous, va se mettre un peu au vert en cette période estivale. Au bord de la mer, une pile de polars à portée de la main et, chance, les auteurs qui vont avec. Parce que quand je dis au vert, c'est tout à fait inapproprié, c'est en jaune au fait, puisque nous allons, Pierre-Yves et moi, nous télétransporter à la 23e édition du Festival du Chien Jaune de Concarneau et y enregistrer deux émissions qui seront diffusées en juillet et en août. Pas de vacances pour les polars. Sinon, c'est comme d'habitude, vous retrouverez les références des ouvrages sur le webzine 404 et tout le toutim, vous savez comment ça marche maintenant. Allez hop, un coup de tapis magique avec Steppenwolf, l'occasion d'un petit hommage à Hermann Hesse, très grand écrivain allemand puisque le nom du groupe est tiré de l'un de ses plus célèbres romans, Le Loup des Steppes, évidemment, et on est parti à Concarneau.
Thank you.
Et voilà, nous y sommes, juste en face de la magnifique ville close de Concarneau, dans le barnum du Festival du Chien Jaune. Comme toujours, superbement accueilli par Mijo, la directrice de l'événement, et que nous retrouverons tout à l'heure, et son équipe de bénévoles. Ça a beau être du noir et du fatal, tout le monde a le sourire, à commencer par les auteurs et auteuses présentes. Et nous allons entre autres essayer de découvrir les secrets pour écrire un bon polar. Les plus simples, c'est encore de poser la même question aux différents auteurs et de croiser les réponses. Tiens, on va aller papoter avec Fabrice Pichon, un auteur au héros assez dangereux, si l'on en juge par son roman « Plus de problèmes.com » paru aux éditions La Joanie, dont nous avons déjà parlé dans l'émission. Bonjour Fabrice Pichon.
Bonjour.
Alors donc, dans votre roman « Plus de problèmes.com », vous jouez beaucoup sur la dualité des personnages, la dualité entre Marc et Walter, son double un peu maléfique. Et le personnage du commissaire, qui est la commissaire, qui est aussi un petit peu double. Vous avez bien joué sur toutes les facettes.
Oui, mais ça va venir de ma culture bande dessinée. Parce que gamin, je lisais beaucoup de comics. Et finalement, je me suis aperçu que même dans la vraie vie, personne n'était ni tout blanc ni tout noir. On avait tous nos parts d'ombre. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec cette dualité dans les personnages. Parce que même le pire des salauds, quelque part, peut être un type bien.
Et là, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt un type bien qui n'est pas forcément un vrai salaud, d'ailleurs.
Non, c'est ce qui explique, en fait, cette schizophrénie qui s'installe peu à peu, parce qu'il n'est pas... Il n'a pas, comment dire, la capacité... C'est un mec bien, comme il le dit, et il n'a pas la capacité entre ses idées et le passage à l'acte. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce double maléfique qui surgit pour lui être l'homme d'action et de faire les trucs pas jolis.
Mais il y a les femmes aussi qui l'influencent beaucoup.
Ah oui, complètement. Mais la femme étant l'avenir de l'homme, dans ce cas-là, c'est vrai que voilà, s'il évolue dans la mauvaise direction, c'est aussi grâce à une femme. Ou à cause d'une femme, oui.
Et quelle idée d'écrire du roman noir, du polar
Parce que c'est malgré tout un domaine assez large. C'est-à-dire qu'on peut écrire toutes les histoires... qu'on a envie de raconter avec les ressorts du noir ou du polar. Que n'importe quelle histoire, finalement, a sa part de mystère, d'enquête. Donc voilà, moi, ça me permettait d'aborder différents sujets en passant par le polar, par rentrer dans la littérature blanche, parce que j'en serais incapable, enfin du moins je le crois. Mais bon, j'avais envie aussi d'écrire des livres que j'avais envie de lire. Donc voilà, le polar était plutôt mon domaine de prédilection.
Et au niveau des influences, des auteurs de noir qui vous ont marqué vraiment
Alors, au risque d'être très présomptueux, je dirais aucun. Avant d'écrire mon premier bouquin, je n'ai pas lu pendant 10 ans, alors que j'étais un gros lecteur. Et je lisais de tout. Donc, je n'ai pas une influence particulière. Et si je ne lisais plus, c'est d'abord parce que j'avais moins le temps, et surtout parce que j'avais une histoire en tête et j'avais peur de la retrouver ailleurs. Et j'avais aussi peur de copier. Donc, au fur et à mesure, j'ai arrêté de lire pour écrire ma première histoire, la seconde, et après j'ai trouvé mon style, donc je me suis remis à ce moment-là à lire, et lire de tout, plus du polar, que ce soit du noir, que ce soit du thriller, que ce soit... Donc je pense, un gros lecteur pourrait peut-être trouver des similitudes ou des influences. Personnellement, modestement, non, j'ai beaucoup de difficultés à dire, ça se rapproche plus de l'un ou de l'autre.
Et vous n'avez plus peur de retrouver vos histoires dans les autres ?
Non, parce qu'en fait, chacune des histoires que j'écris a une touche personnelle. Et je ne pense pas qu'on ait tous vécu les mêmes choses. Donc à partir de là, voilà. Et puis dans la construction des histoires, et puis dans certaines scènes, en fait, je pense que j'ai trouvé ma patte et qu'elle me légitime. Donc à partir de là, j'ai plus peur de retrouver...
Ouais, vous avez l'onction avec la publication.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'est...
Et vos relations avec les personnages, est-ce que ces personnages-là vous habitent, vous avez besoin de les créer, ou est-ce que ce sont des personnages comme ça, d'imagination, mais qui ne vivent pas plus que ça en vous ?
C'est par période. Je dirais que c'est par période. Alors, il y a une série où on a la même commissaire qui s'appelle Marianne Brack. Il y a eu 3 histoires avec elle. Parce qu'à un moment donné, elle, public et moi, on avait l'envie de la retrouver. Donc là, c'est vrai qu'elle m'obsède. C'est-à-dire que quand je suis vraiment dans l'écriture, elle est vraiment très présente. Et là, c'est à peu près la même chose avec Marie Salvant, donc, qui était l'enquêtrice de plusdeproblèmes.com. Là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet où on va la retrouver. Et là, effectivement, c'est pareil. À ce moment-là, j'ai ces personnages en tête, en toile de fond. Et c'est un peu comme pour les ordinateurs. Voilà, en tâche masquée, ça travaille, ça mouline.
Et comment vous travaillez ? Est-ce que vous créez un synopsis très précis du roman ou est-ce que vous partez et puis vous verrez bien où ça vous emmène ?
Je suis incapable d'écrire un synopsis et ça me gâcherait le plaisir de créer. Donc en fait, à un moment donné, c'est les personnages qui me portent, c'est les situations que j'ai créées qui me font avancer. Donc j'ai un point de départ. De temps en temps, j'ai un point d'arrivée, et pas toujours. Et puis voilà, ça se déroule, ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail de réécriture. C'est-à-dire quand j'arrive à un moment, j'écris une scène et je me dis « Oui, mais ça, c'est pas cohérent avec un truc que j'ai déjà écrit. » Donc je reviens en arrière, le but du jeu étant qu'il y ait quand même une fluidité dans le... Voilà, hein, qu'on n'ait pas des trucs qui arrivent comme ça.
Est-ce que vos personnages vous surprennent ?
Oui. Très simplement, Marie Salvant, donc, c'est une flic assez particulière, c'est une flic qui est homosexuelle. Mais au départ, quand j'ai commencé à créer le personnage, ce n'était pas du tout dans l'esprit. C'est à un moment donné une scène où elle se retrouve en face d'une jeune fille qui la drague, où je me suis dit, ah ouais, ça peut être sympa. Voilà, c'est vraiment... à un moment donné, les personnages prennent... Je trouve que mes personnages, quand j'écris, prennent vraiment la main sur l'auteur.
Est-ce qu'il y a une part autobiographique dans vos écrits ? Est-ce que vous faites référence à ce que vous avez vécu ou est-ce que c'est complètement imaginaire ?
Rien n'est à 100% imaginaire. Donc il y a des expériences personnelles ou de personnes que j'ai pu rencontrer qui sont reprises. Je suis un peu des fois comme une éponge. Alors, il y a ma propre vie, puis il y a la propre vie de personnes que je vais rencontrer, qui vont se confier à moi. Et je leur dis à un moment donné, attention, ce que vous me dites, un jour, vous pouvez le retrouver dans un bouquin.
Bon. C'est ce que disent souvent les auteurs.
Voilà, tout à fait. Et là, pareil, à propos de ça, le projet sur lequel je suis s'inspire d'un fait divers. Enfin, quand je dis s'inspire, c'est qu'il part d'un fait divers réel. Et le personnage central est une personne qui s'est confié à moi, puisque c'est un ami d'enfance, qui m'a raconté un certain nombre de choses qu'il a vécues. J'ai trouvé que c'était un personnage de roman noir. Et je lui ai dit, écoute ton histoire, je me l'approprie, si tu es d'accord, et je vais en faire autre chose. Mais avec beaucoup de ces anecdotes que tu m'as racontées. Donc voilà, à partir de là, effectivement, on va presque considérer que j'ai absolument aucune imagination.
Il faut quand même créer un peu la sauce entre les différentes histoires.
Ça peut aider, ça peut aider.
Est-ce que vous avez un conseil à donner pour ceux qui voudraient écrire, des auteurs en herbe ?
Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de se faire plaisir. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit pour moi. C'est-à-dire pour lire le livre que j'avais envie... Enfin, pour écrire le livre que j'avais envie de lire. Voilà. Sans me dire, je vais être édité par un tel. D'ailleurs, je n'ai pas eu cette démarche-là. J'ai trouvé un petit éditeur local à l'époque. Et puis, voilà, ça rentrait dans sa ligne éditoriale. Et je pensais qu'il n'y aurait qu'un bouquin. On en est à 5, je crois, ou 6, avec un éditeur national cette fois-ci. Donc voilà, mais je crois qu'à la base, c'est d'abord se faire plaisir, c'est ce qui est le plus important. Quand ça devient une contrainte ou quand on rêve de succès, de gloire, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec.
Et est-ce que la musique tient une place importante ? Parce qu'il y a quand même pas mal de musique dans plusdeproblèmes.com.
Oui, elle tient une place importante et je trouvais dommage dans un certain nombre de bouquins que j'avais lus, parce que j'ai relu depuis après ces 10 ans d'abstinence, on parlait de musique, mais en fait le personnage mettait une cassette, on mettait le titre et puis plus rien. Moi ce que j'avais envie de faire, c'est que la musique dans les scènes où elle était présente ait une véritable importance, c'est-à-dire que essayer de faire en sorte que l'écriture soit rythmée par la musique, voilà, que la musique est vraiment ne soit pas que 3 lignes sur une page, mais qu'il y ait vraiment une présence avec les personnages, donc oui, et j'aime beaucoup la musique. En fait, j'ai commencé par être musicien quand j'étais plus jeune, du synthé, enfin tout ce qui était clavier. D'ailleurs, je continue, je m'y suis remis parce que les technologies ont tellement évolué que même quand on est mauvais, on a l'impression d'être bon. ça aide. Et c'est agréable. Et voilà. Et puis de me faire plaisir sur des titres que j'aime ou qui m'évoquent quelque chose. Ou dans plusproblèmes.com, on a, comment s'appelle ce groupe, ERA, qui a une grande importance parce que c'est le genre de musique que j'écoute à un moment. Et moi, quand je mets cette musique, ou quand je mets du genre, ou quand je mets, ben je m'évade. Donc voilà, j'ai voulu retracer un petit peu, reprendre ce que je ressentais à ces moments-là dans les livres et puis pour les personnages.
Et est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant ?
En toile de fond, oui. En toile de fond, parce que le silence, un peu, mais pas trop. Donc voilà, mais ça peut être de tout. Alors là, puis j'ai la chance d'avoir une bibliothèque, médiathèque à côté de chez moi. Donc ça me permet d'être vraiment un touche-à-tout en matière de musique. Je prends des CD au hasard, vraiment sans savoir ce que c'est, que ce soit du jazz, que ce soit de la variété, que ce soit des trucs que je ne connais pas. Et puis je les écoute. Puis il y a des coups de cœur. Donc voilà, ceux-là, je les enregistre et puis je me les passe en boucle pendant 15 jours. Puis après, je ne les écoute plus pendant 6 mois. Mais bon, voilà, c'est. Non, j'aime beaucoup la musique.
Eh ben merci beaucoup Fabrice Pichon, on a une idée de votre univers maintenant. Moi j'ai piqué un titre dans votre roman, c'est ZZ Top, Give Me All Your Lovin', qui est assez présent dans le bouquin.
Oui, à un moment assez clé par rapport au personnage, donc je trouvais que ça collait très bien avec l'histoire.
Puis ça nous fera un peu de soleil du sud des États-Unis. Allez, ZZ Top, c'est parti.
What you got is a sensation.
Les romans de l'été de Dance Floor, maintenant, nous ne sommes pas tout seuls. Pierre-Yves et moi à être au bord de la mer. Dance Floor également a les pieds dans le sable chaud. Ce n'est pas une raison pour ne pas lui demander si elle n'a pas un ou deux livres à nous recommander pour cet été. Hello Dance, beau temps ?
Ah ouais, c'est super beau ici. Il paraît que chez toi c'est moyen, mais ici il fait super beau, c'est super chaud.
Pas du tout, canicule bretonne. nous recommandes-tu ?
Alors aujourd'hui j'ai présenté deux romans parce que c'est les vacances, hein. Le temps n'est plus compté, on peut se laisser aller à envisager d'être un serial lecteur. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah, je pense que c'est une bonne idée.
Deux romans, c'est mieux qu'un, non ?
Oh, tout à fait.
T'as vu comment je suis rentable ? Je suis en surmultiplié là.
Ouais, pas d'augmentation quand même.
Ah, bon, tant pis, j'aurais essayé au moins. Alors d'abord, mon bijou noir, très très noir, un roman très singulier, extraordinaire à tout point de vue, très très court, une petite bombe de concentré de noirceur Coyote, de Colleen Winnett chez De Noël, traduit par Sarah Gursel. Alors c'est une femme qui parle, son enfant vient de disparaître, une petite fille, comme ça, elle l'accouche un soir et puis la petite a disparu le lendemain matin. Elle raconte la folie, le manque, la vie sans la petite évidemment, les souvenirs qui s'effilochent, qui disparaissent, et puis le couple qui se fait et se défait autour de l'absente, qui se décompose, qui se recompose, comme dans une meute, et les rôles sont sans cesse changeants. Alors le couple va supplier qu'on leur rende la petite dans une émission de télévision, tu vois le genre ?
Ouais.
Rendez-nous notre enfant. Un passage obligé, dont l'impact est d'autant plus faible qu'il en devient presque un divertissement pour le public, en fait. Une sorte de malaise s'empare du lecteur parce qu'il se dégage du récit de la mère une folie hallucinée et une violence aussi extrêmement dérangeante. Et on se demande très vite, bien sûr, si les parents sont complètement étrangers à la disparition de leur enfant. Rapidement, ils ne savent même plus comment elle s'appelle, à quoi elle ressemble, ni ce qu'elle aimait faire. Leurs souvenirs sont disparates, souvent absents, mal reconstitués, insatisfaisants. Et ils se retranchent dans leur maison tanière, seul, absolument seul, ils s'affrontent, ils s'épaulent, ils boivent aussi, et c'est vite. Le récit s'affranchit des codes narratifs habituels, ce sont des tout petits chapitres, sans chronologie nette, avec cette impression de voir deux êtres humains devenir des animaux, fouir le sol, renoncer au langage, crier, garder sa tanière et se battre contre les intrus, mais aussi se battre entre eux. Donc c'est un petit récit très très noir, prenant, violent, très énigmatique et qui laisse des images très fortes dans la tête, comme cette femme qui prend son bain avec des abeilles sur la tête. On n'en sort pas totalement indemne, ça se coud un peu. Et la fin est vraiment terrifiante, inattendue et absolument atroce.
De quoi mettre de bonne humeur pour les vacances, quoi.
Voilà, je recommande Coyote de Colleen Winnett, qui a écrit d'autres romans que je recommande aussi. Voilà, c'est
mon
premier roman.
Et le second ?
Le second, alors c'est pour se détendre un petit peu, là, un roman à l'ancienne, du genre bienvenue aussi, une observation fine et amusée, distanciée, des mœurs de deux familles très riches, associées depuis deux générations, associées oui, mais pas égales. D'abord parce que l'une est catholique et l'autre protestante. Attends, ça se passe en Irlande du Sud, hein, ça t'explique les choses. Et puis parce que l'une est dominante depuis toujours, plus à l'aise socialement, et que l'autre accepte d'être dominée.
Donc il y en a une qui est quelque chose et l'autre qui n'a rien.
Qui a beaucoup moins, en tout cas, et qui est méprisé, si tu veux.
Ouais, c'est pour remettre dans le contexte du pays, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, ça s'appelle Vengeance. Le titre est assez explicite, de Benjamin Black chez Robert Laffont, traduit par Michel Albaré-Match. Et alors, des morts, il y en a au sein de ces familles, bien sûr. Hein, et beaucoup d'années de haine recuite ont fini par rendre ces deux familles un peu dingues. L'intrigue est bien ficelée, mais elle est presque secondaire par rapport au plaisir vachard qu'on peut avoir à explorer les liens entre les différents membres de ces deux familles, avec de vrais tarés, de vraies victimes, des femmes fatales, des enfants vicieux, et aller voir se montrer sadique et pervers. Tu vois bien ce que je veux dire, Patrick, n'est-ce pas ?
Ouais, un monde normal, quoi.
Voilà, regarder les riches se détruire, c'est comme au cinéma, quoi, ou au stand du chamboule tout, un plaisir simple, certes, mais qui fait du bien.
Mais ça existe pas en vrai.
Mais bien sûr. L'écriture est très élégante, très glacée, ironique, très glacée, tu vois, pour l'été, c'est bien.
Oh, super.
Ironique, savoureuse, ouais. Je recommande de lire avec un jean sur un lit de glaçon en dégustant des after eight. C'est tout à fait ton style, non ?
Oh, c'est tout à fait ça. Surtout les after eight.
Bah, remarque, il fait trop chaud, ça va un peu fondre le chocolat, il vaut mieux autre chose, tu as raison.
Ouais. Alors, c'est pas finir, bon, c'est anglais.
Oh ! Ah oui, j'avais oublié, évidemment. Tu n'aimes pas Theresa May, peut-être?
Bon, joker. Je fais appel à un ami.
D'accord, ok. Alors, donc voilà, Vengeance et Coyote, et puis un peu de musique.
Allez, allez, soyons fous.
Alors, Crosby, Stills, Nash, Just a Song Before I Go. Et ça, c'est une musique que j'ai beaucoup, beaucoup aimée.
Eh ben, merci beaucoup.
En magasin.
Ouais, 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 on va trouver. Merci beaucoup, Dance Floor.
Je t'en prie.
On se retrouve au mois d'août.
Voilà. Ciao.
Bonnes vacances.
À toi aussi.
Allez. Rencontre au festival Le Chien Jaune de Concarneau, c'est Guillaume Tranois qui va nous parler d'une très très belle initiative. C'est l'histoire du petit Léon. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors donc ce petit Léon, c'est qui?
Alors ce petit Léon, c'est un petit personnage imaginé par Hélène Kérilis, qui est éditrice pour la collection Léon Art and Story. Et donc, cette éditrice a imaginé une collection pour amener les enfants à s'intéresser à l'art. Donc, ce petit personnage est là pour faire des pitreries, pour apporter un peu de légèreté et pour amener l'enfant à se poser des questions sur le tableau présenté.
Et donc, en relation avec chaque œuvre d'art, il y a une petite illustration du petit Léon.
Voilà, en fait, chaque livre propose un thème bien précis. Alors, ça peut être jardin, ça peut être fée, ça peut être à table, etc. Il y a une quinzaine d'albums actuellement. Et donc, on rassemble 13 œuvres d'art d'artistes plus ou moins connus qui ont travaillé sur ce sujet-là.
Oui, je vois, là, il y a les nymphéas, il y a pas mal de choses. Et vous, vous avez un autre personnage qui travaille, lui, plus dans le polar.
Oui, tout à fait. En fait, c'est Hercule Carotte Détective. Voilà, donc c'est un détective qui a un acolyte, qui est un renard, qui s'appelle Euseb, et qui fait, lui, que des bêtises et qui a peur de tout. Par contre, Hercule, lui, il mange des carottes et il trouve la solution des énigmes.
Et c'est un petit peu la mode Agatha Christie, il réunit tous les personnages à la fin?
C'est un peu ça. Il y a eu un peu de cette idée. Des fois, on dérive un peu sur des choses légèrement différentes, mais l'idée est là, oui.
Et votre idée, c'est avant tout de la pédagogie envers les petits?
Pour Léon.
Et pour Hercule Carotte aussi, hein, leur apprendre un petit peu ce que c'est une enquête.
Pas tout à fait. Je dirais que Hercule, c'est plutôt une lecture ludique. C'est un amusement. C'est un peu comme le clown blanc et ces deux personnages. Hercule est assez sérieux quand même. Et puis Eusèbe est là pour faire des pitreries.
Et c'est pour quelle tranche d'âge ?
Alors c'est du 5-7 ans. C'est vraiment la première lecture, c'est pour amener les enfants à devenir autonomes. Alors la chose aussi importante à dire, c'est que dans cette collection-là, on ne donne pas la solution. C'est-à-dire qu'il y a assez d'éléments dans les textes et les images pour que le jeune lecteur puisse trouver par lui-même la solution de l'énigme.
Donc c'est vraiment lui le détective ?
Tout à fait.
Et pour le petit Léon, la tranche d'âge ?
Alors là, moi je dis que c'est entre du 4 et 70 ans. Parce qu'en fin de compte, c'est pour moi un outil pédagogique. C'est-à-dire que même travaillant dans le milieu artistique, il m'arrive de découvrir des tableaux que je ne connaissais pas. Donc ça peut très bien intéresser vraiment un large public.
Et c'est votre volonté, c'est de lier un peu tous les arts, l'écriture, le dessin, la peinture
Là, pour le moment, c'est principalement la peinture. Il faut dire que cette petite maison d'édition Léon Art & Story a 3 ans d'existence. Donc c'est assez récent. Et on se tournera peut-être plus tard vers la photo, vers la sculpture. Après, c'est une question de droit d'auteur, de pouvoir acquérir des publications auprès des artistes, vivants ou plus vivants. Hein, mais on est confronté à ça. Mais ça, c'est le travail de l'éditrice, qui est un lourd travail aussi.
Et on les trouve où, ces ouvrages-là ? Partout, en librairie ?
On les trouve partout. On a un très bon site où on peut les commander en ligne. Et en librairie, s'ils n'ont pas, ils peuvent les trouver facilement.
D'accord, ben merci beaucoup Guillaume Tranois, et c'est très bien. Moi je vous les recommande parce que c'est très joli, c'est très bien illustré et en plus ça permet de découvrir des très 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 beaux tableaux. Vous retrouverez bien sûr le site pour les commander sur le webzine 404. Merci beaucoup, bon festival.
Like a fool.
toujours au Chien Jaune en compagnie de Chloé Mehdi qui a publié Rien ne se perd aux éditions Gigal Polar. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Donc c'est un roman qui parle avant tout de violences policières et des conséquences à long terme.
Oui, et de, surtout l'impunité juridique qui fait suite à ces violences, plus que des violences en elles-mêmes.
L'impunité et puis un sentiment d'injustice qui perdure et qui ne s'en va jamais.
Ouais. Parce que c'est bon, assez en écho avec la réalité, à savoir un officier de police qui va tuer un adolescent au cours d'un contrôle d'identité, en lui défonçant la tête à coups de matraque, en s'énervant, quoi, en perdant le contrôle de soi. Et derrière, relax. Ce qui est le cas à chaque bavure policière, c'est automatique et prévisible. Donc quand la justice républicaine ne joue pas son rôle, quelle autre forme de justice va prendre le relais? C'est un peu ce qui est exploité dans le livre, questionné dans le livre plutôt.
Oui, il y a toute l'histoire de Zé, de l'enfant et comment ça avance. Moi, ce qui m'intéresse, on en a parlé déjà dans des polars et des notes, ce qui m'intéressait, c'est un petit peu comment tu es venu à l'écriture. C'est-à-dire que tu as commencé à écrire au collège parce que tu t'ennuyais.
Alors j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement au collège parce que je m'ennuyais. J'avais commencé un peu plus tôt, mais c'était plus des exercices de style, c'était pas des vraies histoires. Et ouais, au collège, je m'intéressais pas au contenu des cours, pas pour autant que j'étais surdouée ou quoi, hein, parce que souvent les gens me disent « Ah oui, vous étiez trop intelligente ». Non, 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 juste ça me saoulait, ça, je comprenais rien. Donc du coup, j'écrivais en cours pour faire passer le temps, parce que c'était quand même 8 heures par jour pendant 4 ans de ma vie où je m'intéressais pas à ce qui se passait, donc ça faisait pas mal de temps libre.
T'as commencé en 6e directement, et pourquoi des polars ?
Eh ben, les polars, c'est venu assez tardivement, et j'ai écrit un roman, on m'a dit c'est du polar, envoie-le à des éditeurs de polars, j'ai dit très bien, et c'est comme ça que j'en suis venu au polar, mais c'est vraiment, c'est pas un choix délibéré que j'ai fait.
Et c'est quoi tes références littéraires, alors que tu as commencé à écrire, tu lisais quoi ?
Quand j'ai commencé à écrire, je lisais plutôt Harry Potter, tous les trucs de fantastique, moi je suis à fond dans la génération qui a grandi avec ça, donc c'était plus, je lisais que des littératures de l'imaginaire, science-fiction, etc.
Et maintenant ?
Maintenant, c'est plus diversifié, j'ai un peu de tout, sauf vraiment les histoires sentimentales basées uniquement là-dessus, ça m'intéresse moins. Peu de polars, mais je commence à m'y mettre, parce qu'à force de croiser des gens dans les salons qui me disent « Quoi, tu lis pas de polars ?» et qui me donnent 10 références, j'ai fini par trouver des trucs intéressants. Là, j'ai lu un Afed Ben Othman, notamment, Éboueur sur échafaud, qui m'a vraiment marqué.
Et quand tu écris, est-ce que tu pars sur une idée, tu as un plan, c'est précis, il y a un synopsis qui est fait, ou alors c'est improvisation pure et tu démarres et tu vois bien ce qui va arriver ?
C'est improvisation pure. Pour Rien ne se perd, j'avais juste l'idée de la scène d'ouverture du livre, à savoir une femme dans un lit d'hôpital et un homme et un enfant dans la chambre qui ne parlaient pas. Et j'avais pas du tout, j'avais même pas l'idée des violences policières, c'est venu ensuite. Donc je commence plein de trucs comme ça, avec quelques scènes vaguement en tête, un personnage, un nom, une phrase. Et la plupart du temps, du coup, ça donne rien, parce qu'au bout de 20 pages, j'ai plus d'idées. Et de temps en temps, j'ai de la chance, ça donne un roman.
Il y a une part autobiographique dedans, c'est des choses que tu as vécues, que tu as côtoyées, qui t'ont marqué, ou c'est juste des choses que tu as vues à la télé, ou qui t'ont marqué dans l'actualité ?
C'est un mélange des deux. Après, moi, je... Les violences policières, j'ai été confrontée assez tôt, mais plus dans un délire politique, fin de manifestation, etc. Moi, j'avais 15 ans quand il y a eu l'élection de Sarkozy qui a politisé beaucoup de gens de ma génération. Donc ça a été... Il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés dans, dans la même situation à faire leur première manifestation, mais qui était très violente, enfin, ou non, où il y avait, pardon, une réaction très violente. Donc direct, premier truc politique que tu te fais taper dessus. Enfin, moi, mon premier rassemblement comme ça, j'étais assise par terre avec des étudiants en train de chanter des chansons pacifistes, toutes mignonnes. Et là, les CRS ont chargé et nous ont tapé dessus alors qu'on était assis par terre. Donc j'ai commencé à me dire il y a un truc qui va pas là au niveau du monopole de la violence. Et je me suis dit qu'il fallait plus... Enfin, j'ai réfléchi à ce fait de répondre à la violence par le pacifisme. Et du coup, ça m'a donné une réflexion assez assez théorique, assez réfléchie, on va dire, sur comment l'État utilise la violence et comment les citoyens n'ont pas le droit de réutiliser cette violence et les injustices qui en découlent. Donc c'est issu de mon quotidien quand même pas mal. Après, Rien ne se perd, c'est dans un cadre de quartier difficile, etc. C'est pas dans un cadre de manifestation que se passent les violences policières, et ça, j'ai pas connu moi-même.
Et t'es toujours pacifiste ?
Non, non, justement.
Comme quoi ça marche, les CRS, pour faire apprendre des trucs. Est-ce qu'il y a une importance de la musique ? Quand tu écris, est-ce que tu écoutes de la musique ? Est-ce que la musique t'influence quelque part ?
J'écoute de la musique pour trouver des idées. Dans le bus, quand je marche dans la rue, ça me permet de me... Je fais une playlist avec des thèmes qui... Enfin, des chansons qui me rappellent le roman que je suis en train d'écrire. Par contre, pour écrire en soi, je suis incapable d'écrire avec de la musique. Je suis incapable d'écrire avec du bruit, s'il y a des gens qui parlent à côté, etc.
Et quel style de musique, alors?
Alors là, c'est pareil, un peu de tout. Je pourrais plus dire ce que j'aime pas, quoi. Le R&B, comme ça.
Bon, bah, toujours, ça, c'est fait.
Mais non, sinon, je n'ai pas de référence particulière. C'est plus des chansons, en fait, qui me donnent des coups de cœur, plus que des styles ou même des albums ou des chanteurs ou des groupes.
Et si tu avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent écrire maintenant, qu'est-ce que tu leur donnerais ?
Pas se laisser décourager par les refus éditoriaux, parce qu'on s'en prend plein la gueule. Et Rien ne se perd, notamment, il a été refusé par 15 éditeurs. Et au final, il a très bien marché, donc comme quoi ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais ne pas non plus s'obstiner, pas tomber dans le truc inverse, parce que j'ai rencontré des auteurs comme ça qui bossaient sur le même roman depuis 20 ans, en continuant à le présenter à tous les éditeurs, en se disant ça va marcher un moment, c'est tous des connards, ils ne comprennent pas, je suis un génie. Et il y a un moment, bon, il faut laisser de côté et faire autre chose. Voilà. Moi, c'est bien le cinquième roman que j'ai envoyé à des éditeurs qui a fini par être pris, quoi. Donc faut pas se décourager ni s'obstiner trop.
Et est-ce que, maintenant, pour toi, est-ce que la littérature, c'est devenu une forme d'expression politique, une forme d'expression de ta lutte, à toi ?
D'une certaine façon, après, c'est plus une forme de... Enfin, une façon de sortir les choses de ma tête, tout simplement. Après, j'imagine pas qu'il puisse y avoir des conséquences derrière, on va dire. Donc c'est une forme d'expression, mais qui vise pas à provoquer quoi que ce soit. C'est plus pour moi me faire du bien, mais c'est pas une tribune politique, en un sens.
C'est plus une forme de thérapie personnelle qu'un message que tu veux envoyer à la société ?
C'est ça. C'est Je pense pas qu'on puisse changer énormément de choses avec les livres. C'est l'expérience que j'en ai moi, en tout cas, pour l'instant.
Eh bien, merci. On va se quitter, Chloé, avec Ice Cube. Un petit peu de rap, quand même. Comme Rien ne se perd, ça se passe dans les cités. On va se quitter avec une chanson qui rappelle ton roman, c'est Good Cop, Bad Cop. Sauf que dans ton roman, il n'y a que des bad cops. Merci beaucoup. Terminates. Break them off some. Yeah. Good cop, rolling with that bad cop. What you doing, boy? Turning that blood clock, buckshot. They fly through the truck spots, robots. Can't give a damn who the fuck shot. Clean cop, fucking with that dirty cop. Don't act like your ass never heard of that. Clean cop, rolling with that lean cop. Still trying to act proud as a peacock. You know that mean cop might need a detox. Motherfucker tried to blow me out my Reeboks. But I swing like Jack in a beanstalk. Chop him down when these bitches try to lock me down. Hit the ground, hit the turf, whoop the earth. Q kidnap your mind, Patty Hearst. Bust a verse that'll make your ass hit reverse. Kill the curse that was placed on the universe. West Coast warlord, black it in the black night. Fuck a black and white when they ain't acting right. Good cop, filling out your report. Bad cop asking you to distort. Bad cop asking you to lie in court. Send another young brother up north. Send another young sister off course. Why these motherfuckers chill on the golf course? Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Lazy cop, fucking with that crazy cop. Always bragging about the new case they got. Do or die cop with that suicide cop. Tell the true cop with that true or lie cop. Are you fucking high cop? Don't even try cop. Ain't no motherfucking drugs up in my spot. All you find in my closet is the high top. And my motherfucking tickets to the skybox. Hold up, nigga. I'm a rider. Use a roller. Yep, the controller. Make me mad? That's when I get swole up. The incredible Hulk is bipolar. Come out the cuffs, knock off the rust. Throw my hands up, you still wanna bust. The Trojan horse is full of excessive force. When they try to get aggressive, niggas off the porch. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Black police showing out for the white cop. White police showing out for the black cop. Good cop, where is your dignity? Where's your empathy? Where is your sympathy? Bad cop, where's your humanity? Good cop, is that just a fantasy? Hell on that nigga, snitch on that bitch. Truth be told, motherfuck the blue code. Fuck the po-po, acting like Debo. Already know, Cracker, let the brick go. Black Lives Matter, it's not
chit chatter. Cause all they wanna do is scatter brain matter. A mind is a terrible thing to waste. A nine is terrible in your face. The mace has a terrible fucking taste. The pen is a terrible fucking place. The kings all hate the fucking ace. The judge sabotaged my fucking case.
Racist motherfucker.
Showing out for the white cop. White police showing out for the white cop.
Toujours du Festival du Chien Jaune, on est avec Stéphane Damien Tissot pour la revue Sans Froid, qu'on avait déjà reçue dans Des Polars et des Notes et qui maintenant est à son sixième numéro. Donc autour du polar, il y a de la vie, il y a des revues. Et donc, rappelez l'objectif de la revue un petit peu.
Bonjour, donc l'objectif de la revue Sans Froid, c'est à la fois donc de parler des affaires judiciaires, donc des faits réels. On est sur une première partie où on mélange des reportages, des enquêtes, des portraits, vraiment voilà, donc autour de ces faits réels, donc écrits par des journalistes, avec cette idée, donc nous sommes un MOOC, c'est une revue entre le livre et le magazine, donc l'idée c'est vraiment de prendre le temps. De mettre un peu pause sur l'actualité brûlante. Nous, on préfère les sujets, revenir un petit peu sur des sujets qui ont peut-être 3, 4 mois ou des sujets qui ne sont pas du tout datés et essayer de les développer, de les décortiquer. Mais bien sûr, en écrivant pour le grand public, ce n'est pas une revue de spécialistes. Il suffit juste d'aimer les émissions comme Faites Entrer l'Accusé et ce genre de choses pour pouvoir aimer Sans Froid. Ça, c'est sur la première partie. Et une seconde partie, donc, sur le polar, avec une nouvelle, écrite par un auteur reconnu, des interviews d'auteurs de polar sur les coulisses, donc comment les auteurs s'inspirent, leur premier polar, la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs personnages, voilà, ce genre de choses, et des portraits pour faire découvrir un peu les nouvelles figures du polar d'aujourd'hui et des critiques.
Et donc, c'est un projet, c'est de mêler la réalité et la fiction et que tout ça s'enchaîne le mieux possible.
Voilà, exactement. Il y a des vraies passerelles entre les deux univers. Notre titre, d'ailleurs, est un petit peu un hommage à tout cela, de Sans Froid, de Truman Capote. On a appelé la revue Sans Froid, avec justement cette idée de mêler un peu la littérature et le journalisme. Cette idée, voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, d'avoir un format long. On est sur les articles qui font une dizaine de pages, donc il faut soigner l'écriture. Il y a vraiment cette recherche aussi de la qualité presque littéraire. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche dans Sans Froid, ce mélange des deux genres, avec ce sommaire propre. Donc le lecteur sait qu'il rentre dans la partie polar, la partie fictionnelle. Donc voilà, il n'y a aucun problème au niveau de la confusion des genres. On sait qu'on rentre dans la partie polar. Et pour l'instant, on a des très très bons retours, des personnes qui viennent à la base pour Sans Froid parce qu'il y a une nouvelle d'un auteur qui les intéresse. On a pu avoir Franck Tillier notamment sur cette première année, Caril Ferret. Olivier Norek, Yann Manouk, pas mal d'auteurs reconnus. Donc parfois, voilà, les personnes viennent à Sans Froid par le polar et découvrent finalement la partie investigation, ou l'inverse, parfois des gens plus passionnés de faits divers, même si j'aime pas trop employer ce mot faits divers, parce que dans la revue, on fait très peu de faits divers, sauf s'il a une dimension sociale ou sociétale. Mais en tout cas, voilà, je sais que par exemple, il y a parfois des personnes qui viennent à la revue par ce biais-là et qui sont finalement intéressées de découvrir des auteurs. Et puis en plus, maintenant, on a une nouveauté depuis le troisième numéro. On a un club des abonnés de Sans Froid qui permet à nos abonnés de commander une vingtaine de... Enfin, il y a 20 livres à gagner de l'auteur de la nouvelle. Donc parfois, quand ils ont un coup de cœur sur un auteur de nouvelle qu'ils ne connaissaient pas, ils peuvent ensuite poursuivre l'aventure, finalement, avec ce cadeau qu'on leur fait de découvrir l'auteur de la nouvelle. Je sais que ça plaît bien et ça permet aussi de faire vivre l'univers.
Et le public, alors, parce que moi, je vous avais interviewé, c'était le deuxième numéro, je crois, qui venait juste de sortir. Là, on en a 6, on peut faire un petit bilan déjà.
Oui, alors c'est très difficile d'avoir une définition du public de la revue, parce que pour l'instant, on n'a jamais fait d'études pour demander la CSP des gens, ce genre de choses. Mais on commence à le savoir un petit peu, par les abonnements. On sait qu'on a des cabinets d'avocats qui nous suivent. On sait que voilà, tout l'univers de la justice, finalement, est assez, commence à connaître la revue. Je le vois, par exemple, quand mes journalistes ou moi-même faisons des demandes d'interview dans l'univers de la justice. on commence à être connu. Donc je dirais le cercle judiciaire au sens large, mais comme je le disais aussi en préambule, surtout aussi le grand public, donc vraiment tout un chacun, sur les salons, voilà, les personnes qui viennent nous acheter viennent de tout univers et ont tout âge finalement. Donc voilà, c'est difficile, mais je dirais les passionnés d'émissions comme Faites Entrer l'Accusé, les passionnés qui écoutent par exemple sur d'autres stations des émissions liées à l'investigation, comme L'Heure du Crime, comme ce genre de choses, et les Polars 2 finalement.
Et au niveau masse de public, votre pari est réussi ?
Pour l'instant, oui, ça va. On a plus d'abonnés que prévu. On a 1000 abonnés à ce jour, donc on est très content. On est un petit peu en avance sur notre objectif qui était à peu près d'être à 600, 700 au bout d'un an, et demi. Donc là, tous les voyants sont au vert et on se maintient au niveau des ventes en librairie. Donc oui, pour l'instant, tout va bien. Et donc là, cet été, on a en plus une nouveauté. On a un hors-série, un best-of de la première année de Sang-Froid qui sort en kiosque, donc chez les marchands de journaux également, donc canal différent pour nous puisqu'on est vendu traditionnellement en librairie, en relais et ce qu'on appelle les grandes surfaces culturelles, donc la Fnac, Cultura. Donc là, voilà, là on a un hors-série, best-of de la première année, donc des 5 premiers numéros de Sang-Froid, le meilleur de Sang-Froid, c'est son nom, qui permet au grand public aussi de nous découvrir, parce que voilà, parfois les personnes ne pensent pas forcément à aller en librairie ou en relais pour nous découvrir. Donc on voulait un peu tester ce nouveau canal de diffusion pour nous. On a beaucoup plus de points de vente, 4000 actuellement de plus que d'habitude. On n'a aucun retour pour l'instant sur les chiffres de vente de ce hors-série, c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, on a confiance, on sait que ça peut être quelque chose qui peut attirer le grand public. Et si les ventes justement sont à la hauteur de nos attentes, ce qu'on souhaite et on est plutôt confiant là-dessus, à partir de la rentrée, on aura cette double diffusion. Donc on sera disponible à la fois en librairie, à la fois en kiosque. Donc la revue sera encore beaucoup plus accessible finalement.
J'allais vous demander justement s'il y avait des nouveaux projets comme intégrer par exemple de la BD ou parler de cinéma ou de parler de tout l'univers en fait du polar.
Alors nous, on n'est pas du tout fermé à tout ça. C'est vrai que la réflexion autour de la revue, on est toujours en train de réfléchir à de nouveaux projets, à de nouvelles choses. Là, par exemple, au niveau des rayons nouveautés, outre cette présence en kiosque, on a aussi le prix Sang-Froid qui va récompenser à partir de chaque année. À partir du mois de mars 2018, un auteur de polar. L'idée, c'est donc que toutes les personnes qui ont envie d'écrire ou qui ont un manuscrit qu'ils n'ont jamais finalement osé envoyer à une maison d'édition peuvent nous l'écrire et nous l'envoyer. L'idée étant de n'avoir jamais été publié encore en librairie et bien sûr de nous envoyer un polar parce qu'on est quand même une revue spécialisée sur le polar. Donc voilà, l'idée c'est aussi ça, c'est peut-être de découvrir demain le prochain Franck Tillier, le prochain Caryl Ferret par ce biais-là. Donc c'est notre prix Sang-Froid. Il y a pas mal d'informations sur notre site à ce sujet, dans la revue également. Donc on reçoit quand même pas mal de manuscrits. L'arrêt de l'envoi des manuscrits est pour fin octobre. Et la décision, comme je le disais, sera annoncée en mars 2018 à l'occasion de Quai du Polar, festival lyonnais que pas mal de personnes connaissent. Voilà. Donc ça, c'est notre gros projet aussi de l'année 2018. Essayer finalement de permettre aussi de faire émerger des nouvelles figures. Donc pour les projets de Sang-Froid.
Mais c'est superbe, la revue fait toujours 9 mm.
Tout ça, toujours 9 mm. Alors le hors-série est un petit peu plus... Non, je crois qu'il fait aussi 9 mm.
C'est du 11-43.
C'est du 11-43, exactement. Oui, non, c'est vrai qu'à la base, pour ne rien vous cacher, c'était totalement involontaire. Mais quand l'imprimeur nous a dit « Est-ce que vous voulez que la revue fasse plutôt 10 mm ou 9 ?» On s'est dit que 9 mm, c'était quand même sympa.
C'est quand même mieux. On va écouter un peu de musique. C'est une musique qui est tirée d'un roman qui s'appelle « L'Ange gardien » de Série Noire, Gallimard. De Jérôme Leroy, auquel la revue a consacré un portrait, je crois, dans le numéro 5. C'est un grand bonhomme, Jérôme Leroy.
Exactement, c'est vraiment un très grand acteur du roman noir français. On lui a exactement, c'est tout à fait ça, vous êtes bien à jour, vous êtes bien informé. On lui a consacré un large portrait dans le numéro 5. Parce que c'est vrai que c'est un auteur engagé. Il a longtemps aussi été au Parti communiste français. Il y a vraiment un auteur qui a des convictions. Ses livres sur le Front National et sur l'extrême droite en général sont vraiment très intéressants, vraiment bien fouillés. Il ne se contente pas de critiquer finalement, il essaye aussi de comprendre le mécanisme et c'est vrai que c'est intéressant cette réflexion. Et voilà, comme c'est un grand bonhomme du polar, on souhaitait lui consacrer un portrait. Et je sais qu'on a eu vraiment de très bons échos sur ce portrait en général, mais sur l'homme plus que sur le portrait. Donc,
Ça m'étonne pas, c'est vraiment un très grand bonhomme. Donc on va s'écouter The Delftonics, Men in Love You. Fin du premier épisode de nos aventures maritimes. Nous nous retrouvons le mois prochain, toujours à Concarneau, au 23e festival du Chien Jaune et toujours en compagnie d'auteurs de polars pour poursuivre notre exploration. Bonnes vacances aux juilletistes, courage aux Aoussiens, bye bye.